Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je m'appelle Daniel Vatter, je suis président du conseil syndical d'un immeuble qui est situé à Paris dans le premier. J'avais une question à poser sur le droit de jouissance privatif sur les parties communes. Je voulais savoir si ce droit de jouissance est vendable. Peut-il faire l'objet d'une contrepartie financière? Par exemple, un copropriétaire souhaiterait se voir attribuer la jouissance exclusive sur un jardin commun ou une courette commune. Dans ce cas, est-ce que la copropriété peut lui attribuer ce droit moyennant un prix ou une indemnité?
Alors, question intéressante. On va rappeler avec Alexis et Mathieu qui souhaitaient intervenir sur cette question ce qu'est un droit de jouissance privatif sur partie commune de droit réel. Et la question qui est posée par le copropriétaire, c'est lorsque la copropriété attribue un droit de jouissance en cours de vie de la copropriété. Hein, je ne parle pas à l'origine de l'immeuble. Est-ce qu'elle peut le vendre, tout simplement, comme si elle vendait une partie commune parce que on a pu rencontrer des difficultés. Pierre-Edouard, vous voulez commencer?
Oui, si vous voulez. Écoutez, Sur le fait que ce soit cessible, je crois qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui. Le droit de jouissance privatif est un droit réel perpétuel. Ça a été qualifié comme ça par la Cour de cassation il y a déjà un moment. J'ai un arrêt en tête de 1992. Et puisque c'est un droit réel perpétuel, c'est-à-dire une prérogative d'une personne sur une chose, eh bien, il peut la céder. Il n'y a pas de difficulté. Et même, il peut la prescrire. La Cour de cassation l'a précisé. Ça a été renouvelé encore cette solution assez récemment. Ce qui veut dire qu'un copropriétaire qui n'est pas titulaire du droit de jouissance, peut le devenir par l'effet du temps, c'est-à-dire par application des dispositions de l'article 2261 du Code civil, s'il se comporte comme propriétaire, donc là en tant que titulaire du droit de jouissance, de manière paisible, continue et de façon non contestée, il pourra l'acquérir par prescription. Donc c'est un droit qui peut tout à fait être acquis, cédé. Aucune, à mon sens, difficulté là-dessus. Et de ce fait, eh bien, il peut y avoir une valorisation, comme tout droit réel, et on peut l'évaluer. D'ailleurs, il y a des experts qui font ça très bien, des experts fonciers, à qui on va demander une évaluation de la valeur du droit, et on va pouvoir, comme ça, le céder, soit parce que c'est un copropriétaire qui veut le vendre à un autre copropriétaire, soit parce que c'est le syndicat qui veut créer le droit en le prélevant, sur les parties communes, et en le cédant à un copropriétaire, type assez classique de projet de réalisation d'une terrasse en toiture, d'une forme de privatisation d'une cour ou d'un jardin, et se pose la question du prix et aussi du calcul des tantièmes en fonction de l'usage qu'il va pouvoir en tirer.
Parce que c'est vrai, Mathieu, souvent les copropriétaires ne veulent pas, demandent pas une cession de partie commune, ils demandent l'attribution d'un droit de jouissance parce qu'ils savent, hein, c'est un peu la pratique, qu'il n'y aura pas de prix, en tout cas pas le même que si on achetait en pleine propriété.
Alors
on en est où ?
C'est peut-être pas la raison, effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas créer un lot privatif et vendre carrément la propriété d'un lot privatif. Pourquoi passer par un régime un peu alambiqué et moins connu de jouissance privative? Je pense que ce n'est pas lié à la valorisation, hein, parce que comme le dit Pierre-Edouard, il n'y a aucun problème pour valoriser un droit de jouissance, et donc à l'ensemble des copropriétaires de fixer le prix le plus intéressant pour eux, qui sera débattu en AG. Mais y a une différence très profonde entre la vente et la jouissance privative, c'est que physiquement, techniquement, la partie d'immeuble sur lequel le droit de jouissance est cédé reste partie commune. Si on prend le cas d'une toiture terrasse et donc de la jouissance de l'utilisation de la jouissance d'une toiture terrasse, c'est quand même important pour le syndicat des copropriétaires de rester propriétaire du toit de l'immeuble, de décider quand il l'entretiendra, comment il l'entretiendra, quand il fera des travaux. Enfin voilà, d'avoir la maîtrise finalement du bâti. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui fait toute la différence, finalement, entre un droit de jouissance et un droit de propriété.
Parce que c'est vrai que le droit de jouissance privative sur partie commune, c'est un peu comme la VEFA, c'est de la jurisprudence hein, qui a été consacrée avec la loi Elan. On a une définition aujourd'hui, hein, l'article 6-3 de la loi de 65, je cite, « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusive d'un lot. Elles appartiennent indivisiblement à tous les copropriétaires. » Et c'est vrai que ce concept est un peu un ovni, hein, propre à la copropriété. On ne le trouve pas dans le code civil. C'est pas un bail, c'est pas une occupation précaire, c'est pas une vente, on l'a bien dit, c'est propre à la copropriété et on a parfois un peu du mal à le définir. Alors il y a les droits et les obligations du titulaire droit de jouissance et il y a cette histoire de prix. D'ailleurs, on dit un prix ou une indemnité?
A priori, on dit un prix, c'est un droit réel, on peut vendre un droit réel, et que ce soit un droit de jouissance privative ou un droit de propriété, il ne devrait pas y avoir de différence, enfin, sous le contrôle de Pierre-Édouard qui maîtrise ces sujets bien mieux que moi, mais normalement, il n'y a pas de différence, donc on parle d'un prix et on parle d'une vente.
Donc pas de problème, on peut faire une cession de droit de jouissance sur partie commune et aller voir le notaire et lui dire on a cédé ce droit pour un prix, et voilà le prix. Absolument. Après, la valorisation, c'est autre chose.
Et en gardant à l'esprit, puisque la Cour de cassation l'avait précisé et que ça a été aussi consacré par le texte, que ce droit est un droit accessoire aux parties privatives, enfin, d'abord aux parties communes, et si on le cède aux parties privatives, et qu'il faut donc qu'il soit réuni dans un lot en tant qu'accessoire de parties
privatives.
Rattaché
à un lot, dis-le.
Et donc, on ne pourrait pas créer un lot de jouissance constitué uniquement en partie privative d'un droit de jouissance. Parce que ce lot-là serait nul d'après les dispositions légales et ça poserait un véritable problème de sécurité juridique s'il y avait une cession d'un tel lot. Donc le droit doit être cédé pour intégrer un lot qui préexiste. Ce qui n'est pas sans difficulté parfois avec la publicité foncière, parce qu'ils connaissent assez mal le véhicule qui permet de faire rentrer le droit de jouissance directement dans un lot qui préexiste. Donc on a des discussions parfois un peu épineuses avec le notariat, mais pour la raison de la publicité foncière, et qui n'est pas de leur fait, mais qui peut être difficile, et qui est la résultante de cette réforme, qui n'est peut-être pas très heureuse d'ailleurs, parce que, bon, on digresse un peu, mais sur les places de parking, on avait un certain nombre de syndicats de copropriétaires en France, où il y a des places qui sont, des lots, pardon, de copropriété qui sont exclusivement composés d'un droit de jouissance sur le sol pour un emplacement de stationnement.
Les casiers au ski.
Les casiers au ski, il peut y en avoir beaucoup d'exemples, mais les parkings sont très parlants parce que la valeur notamment est importante, même si les casiers au ski, ça a de l'importance, mais les places de parking, c'est vraiment épineux parce que tous ces lots-là sont éventuellement frappés de nullité. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de la mise en conformité élan, parce que ça va peut-être nous permettre de sauver ces lots à des majorités simples. À voir si on peut toujours le faire, parce que ça implique peut-être des cessions. Mais on va digresser beaucoup si on est sur ce terrain-là. Mais il faut faire vraiment attention au véhicule de la cession et effectivement au calcul de la valeur. Parce que s'il n'y en avait pas, il pourrait y avoir des contestations tout à fait fructueuses des copropriétaires qui reprocheraient au syndicat d'avoir cédé un droit de jouissance sans l'avoir valorisé. Puisqu'on le sait, la jurisprudence est claire là-dessus. Pas de cession à titre gratuit. Le syndicat n'a pas vocation à faire don des droits indivis aux copropriétaires en particulier.
Donc pour répondre à ce copropriétaire, oui, la copropriété peut et même doit, comme vous le dites, obtenir une contrepartie financière lorsqu'elle cède un droit de jouissance privatif sur partie commune, qui est différent, hein, je rappelle, du droit de jouissance à titre précaire et à titre personnel, mais là on parle plus de tolérance que de droit. C'est par exemple l'autorisation ponctuelle à une personne bien déterminée de laisser sa voiture dans la cour. Hein. Ça aujourd'hui c'est un droit qui n'existe pas dans la loi mais qui existe toujours en pratique par contre. Donc prudence quand on définit le droit, quand on rédige la résolution, bien indiquer le périmètre du droit, et j'invite à consulter le syndic, éventuellement à consulter un professionnel du droit, un notaire ou un avocat sur ce sujet là. Je propose qu'on passe à la séquence numéro 3, le métier de syndic.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.